7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupio.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Dis-moi comment tu t'appelles, je te dirai qui tu es. Nous parlons des prénoms aujourd'hui.
Lui, il s'appelle Enzo. Mais les Enzo sont têtus.
Les Enzo sont têtus?
Oh, capricieux. Quand je vois les enfants Enzo ici, oh là là.
On a eu pas mal à la paix, mais des enfants s'appellent Enzo. Mais est-ce qu'ils sont plus turbulents que d'autres? Je pense que tous les enfants sont turbulents.
Mais les Enzo? Catastrophique.
Mais non.
Ils peuvent être chics, avoir un sens religieux, une origine familiale, être mixte, porté par un homme ou par une femme, être commun ou créé de toutes pièces. Que disent nos prénoms de nous? En quoi ces quelques lettres données à la naissance influencent-elles nos vies et nos personnalités? Et comment bien choisir le prénom de son enfant? Il existerait même une science des prénoms qui se développe considérablement depuis une quinzaine d'années et elle est là pour nous en parler. Bonjour Anne-Laure Cellier.
Bonjour.
Vous enseignez à HEC, Grande École de Commerce Parisienne. Vous êtes spécialisée en psychologie sociale et vous publiez le livre « Le pouvoir des prénoms ». Et bonjour Jean-François Amadieu.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste des relations sociales au travail. Et vous, les voisins, les voisines, aimez-vous ou non votre prénom et pourquoi? Pensez-vous que ce prénom vous a aidé ou bien desservi dans votre vie? On attend vos témoignages ou vos questions aussi si vous en avez pour nous inviter au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et puis bien sûr, les réseaux sociaux vous attendent aussi, Facebook, Twitter et Instagram.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Et de jolies histoires de prénoms se lisent déjà sur notre page Facebook. Médécé nous écrit depuis Malanville, au Bénin. Pour moi, les prénoms n'ont aucune influence sur nous. Par exemple, les Joseph, Marie ou Mohamed ne se comportent pas toujours aussi bien que les premiers qui les ont portés. Moi, je m'appelle Médécé, ce qui veut dire « nul ne détient le destin de son prochain » et c'est un prénom que j'aime beaucoup. Kevin est lui à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il nous écrit « Dans ma famille, on donne les prénoms au hasard. Je ne pense pas que cela ait un impact. Mamadou est lui à Kaolack au Sénégal. Moi, je pense que les prénoms influencent bel et bien la vie. J'ai fréquenté l'école primaire avec quelqu'un qui s'appelait Bako Roba. Les élèves se moquaient de lui. Conséquence, aujourd'hui, il est très timide. Et puis, Vincent nous écrit depuis Abidjan. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des préjugés. Par exemple, la plupart des filles qui s'appellent Cynthia, Nina, Cassandra ou Déborah sont considérées comme des filles de joie. Ce qui fait que lorsque tu abordes une fille qui porte l'un de ses prénoms, tu la classes sans chercher à en savoir plus sur elle.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Mais tout de suite, reportage dans une PMI, un centre de protection maternelle et infantile, celui de la Croix-Rouge française dans le 20e arrondissement de Paris. Ici, on vient faire peser son nouveau-né hein, quelques semaines après la naissance et puis on discute des prénoms choisis tout frais. Alice Milo est allée tendre son micro à des parents attendris.
Vous lui donnez le sein ou le bib?
Tous les deux.
Les deux.
Bonjour. Ça va?
Très bien.
Ça va super.
Et la demoiselle?
Elle va bien aussi.
C'est votre petite fille?
Oui.
Elle a deux mois.
Et elle s'appelle?
Julie. Bah, c'est le prénom de ma grand-mère en fait.
Pourquoi c'était important pour vous de donner le prénom de votre grand-mère?
Parce qu'elle avait des bonnes valeurs de vie, elle était douce, elle avait un bon caractère. Donc je me suis dit, en hommage à ma grand-mère, de une, qui est décédée. Et en plus de ça, comme ça, peut-être que ma fille aura les mêmes traits de caractère que son arrière-grand-mère.
Vous pensez que ça peut jouer?
Je pense, ouais, je suis convaincue. Un prénom, ça influe aussi sur le caractère. Donc donner un prénom d'une personne qu'on a aimée, peut-être qu'on retrouvera les traits de caractère de la personne à qui on a donné le prénom en fait.
Allez, sous la balance, mon grand.
N'aie pas peur, chouchou.
8 kg 500.
Dominique, Rosette, c'est quoi les prénoms du moment que vous entendez, vous, ici?
Les vieux prénoms reviennent.
Jean-Gaston.
Léon.
Édouard. Ouais.
Dernièrement, on a eu une Rihanna.
Comme on fait d'habitude, maman va partir et Inaya va rester ici avec nous.
Non.
Ah ben, alors il faut s'habiller.
Imaya, elle a une belle histoire au niveau de son nom.
C'est la petite fille qui vient de rentrer.
Ouais. C'est I-M-A-Y-A et ça représente le début du prénom de chaque membre de la famille.
Mais c'est les premières lettres.
Les premières lettres.
Donc ils ont mis beaucoup de temps à chercher ce prénom.
À composer le prénom.
Ouais.
Il y a le début du prénom de la maman, du prénom du papa.
Des frères et sœurs, la mère, du père, et je crois qu'un membre de la famille aussi, un grand-père ou une grand-mère. C'est joli.
Et vous, Rosette, vous êtes maman?
Oui, je suis maman d'une fille de 14 ans, actuellement. Et effectivement, quand j'ai choisi le prénom de ma fille, c'est vrai que je savais, le jour où j'ai su que j'étais enceinte, je savais qu'elle allait s'appeler Camille, je savais que c'était une fille.
Camille.
Et c'est référent à ma mère, parce que ma mère, son prénom c'est Camille Laurence, mais vu qu'aux Antilles, on donnait souvent des prénoms du calendrier, parce que c'était les bonnes sœurs à l'époque qui déclaraient les enfants. Ma grand-mère, en fait, voulait appeler sa fille Alexina. En fait, les bonnes sœurs l'ont appelée Camille. Et donc, ma mère et ses sœurs l'ont toujours appelée Alexina. Et c'est bien plus tard, j'avais peut-être 10 ans, que j'ai su que ma mère ne s'appelait pas Alexina, de son vrai prénom, c'était Camille Laurence. Et donc je me suis dit, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, elle va s'appeler Camille Laurence, parce qu'au moins ma mère entendra son prénom un jour.
Merci. Me laissez jamais le bébé tout seul comme ça.
Ah d'accord.
Jamais. Comme je suis là, vous me dites, il faut le tenir. Quand vous êtes à la maison, vous le posez par terre, vous allez faire ce que vous devez faire. Toujours en sécurité.
Ah, d'accord.
D'accord.
Et vous, Dominique, vous avez des enfants?
Oui, moi j'ai deux filles.
Et alors, elles s'appellent comment?
Alors, il y en a une qui s'appelle Jessica et une autre qui s'appelle Elena. J'ai choisi aucun des deux. Les deux miens sont arrivés à l'avance. Donc, j'avais pas décidé de prénom. Donc, le papa l'a appelée Jessica. En référence au film King Kong, l'héroïne, c'était Jessica Lange.
Mais en 8 mois de grossesse, pas une seule fois, vous vous êtes posé la question de comment vous allez appeler votre enfant?
C'était pas une préoccupation. C'est joli, Jessica et Elena.
Ravissant.
Vous voyez donc pourquoi j'aurais changé.
Et alors vous, Catherine, vous avez 3 garçons?
Donc moi j'ai 3 fils, oui. Mon fils aîné s'appelle Pierre. Et donc à ce fils, j'ai donné le prénom d'un frère de mon père qui est mort très jeune. Enfin très jeune, qui est mort à 25 ans accidentellement. Et là, j'étais un petit peu partagée aussi, parce que c'est difficile de donner le prénom d'une personne morte à un enfant.
Mais vous l'avez fait quand même?
Oui, je l'ai fait quand même. Parce que pour moi, c'était la mort contre la vie, ou la vie contre la mort, quelque part. C'était une réparation. Voilà. Et mon troisième fils s'appelle Jean. En fait, c'est aussi le prénom d'un frère de mon père, là, pour le coup. Mais celui-là n'est pas mort. Mais mon fils, lui, il n'aime pas son prénom. Il dit qu'il est nul. Moi, je n'aime pas tellement mon prénom non plus. Hein. Je m'appelle Catherine, c'est un prénom classique. Je ne trouve pas ça terrible. Moi, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus...
exotique.
Original ou exotique. Hein. Hmm. Bon, ça, c'est un effet de génération. Moi, il pouvait y avoir 2 Catherine ou 3 Catherine dans ma classe, par exemple. Et ça, ça ne me plaisait pas du tout. J'étais déjà l'aînée d'une famille de 5 filles dans laquelle il fallait lutter pour trouver sa place. Donc, en plus, en classe, quand il y avait plusieurs filles qui s'appelaient comme moi, je n'aimais pas ça du tout.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
RFI, on est ensemble.
Alors, Célie, comment vous réagissez à ce reportage, à toute cette diversité de prénoms?
C'est une diversité qui illustre très bien l'époque à laquelle nous vivons, c'est-à-dire des gens qui sont tiraillés entre un désir de classicisme et de refuge pour le prénom de leur enfant, hein, pour que l'enfant passe partout, et puis par ailleurs un désir parental un peu fou que l'enfant soit grandiose, extraordinaire, et donc qu'il soit affublé d'une étiquette sociale unique. Chose qui a été rendue possible par la loi de 1993. Et on voit que les prénoms originaux et les prénoms inventés de toutes pièces sont en explosion.
Et cette loi permet de donner en fait à ses enfants en France des prénoms qui ne sont pas ceux du calendrier notamment.
Voilà, alors qui ne sont pas ceux du calendrier, donc ça nous a permis d'incorporer des prénoms qui existaient à l'étranger par exemple, hein, et qui n'existaient pas en France, mais également de créer des prénoms de toutes pièces. Hein. Ah. Aujourd'hui, on crée de nouveaux mots littéralement chaque année.
Imaya, d'ailleurs, comme le reportage.
Imaya, par exemple, ou d'autres. D'ailleurs, il y a un florilège chaque année dans les journaux. C'est évidemment un marronnier journalistique de faire le tour des prénoms les plus improbables qui ont été donnés à des enfants.
Alors, vous décrivez 3 stratégies du prénom. La stratégie refuge, on choisit un prénom classique, qu'on ne prend pas de risque. Et puis, il y a aussi la stratégie de la différence. Et notamment, il y a une agence suisse de publicité qui propose aux futurs parents de trouver la perle rare des prénoms en l'échange de 28 000 $, c'est ça, pour le prénom?
Voilà, oui, 24 000 €. Enfin, une somme considérable. Il s'agit de Erfolgsfelle, qui marche très très bien. C'est une boîte de pub à la base. Et ses fondateurs ont raisonné. D'ailleurs, le raisonnement tire debout. Hein, pourquoi est-ce qu'on s'affublerait d'un prénom qui serait une imitation? qui serait quelque chose d'emprunté à d'autres personnes, alors que l'individu devrait pouvoir briller de ses mille feux et avoir un nom unique. Et donc cette boîte, effectivement, cherche un prénom qui est unique et qui, évidemment, ne va pas évoquer de choses qui mettraient l'enfant en difficulté, comme, par exemple, ils ont vérifié dans l'un des prénoms qu'ils pensaient donner à un enfant, c'était aussi le nom d'un shampoing en Chine, de L'Oréal, donc ils ont exclu ce prénom-là. Enfin voilà, ils font un travail très en profondeur. Le but étant de trouver vraiment un prénom unique, magnifique pour l'enfant.
Et original. Et puis il y a la troisième stratégie du « on ne sait pas pourquoi, mais on aime bien ce prénom ». Voilà, un petit peu entre les deux.
Voilà, alors il y a des stratégies, il y en a beaucoup plus que ça. Ça, ce sont les trois stratégies, je dirais, dans laquelle la plupart des gens à qui j'ai parlé, et puis on le voit très bien quand on attend son propre enfant, j'ai moi-même deux enfants, on passe d'une stratégie à l'autre. C'est-à-dire qu'il est tout à fait courant pour les parents de passer par des phases de « bon, allez, Louis, Gabriel, Emma... » C'est ce qu'il faut. Et puis, tout d'un coup, de partir dans des Haute-Claire, Aliénor ou prénoms formés de toutes pièces, on se dit, bah, ça quand même, ça a de la gueule. Et puis après, on redescend et effectivement, on passe par le « on ne sait pas pourquoi, mais on a bien aimé » qui souvent est quelque chose, en fait, on aime bien parce que c'est dans l'air du temps. Ce sont
entendu.
Les prénoms qui sont à la mode ou qui vont le devenir.
Jean-François Amadieu, le choix du prénom dépend aussi, bien sûr, du milieu social. Et puis, il y a cette idée d'étiquette sociale qui pose un prénom.
Bien sûr, parce que dans le choix des stratégies que vous évoquez à l'instant, votre milieu social va beaucoup jouer. Il est certain, par exemple, que le choix de prénoms plutôt classiques, conservateurs, voire aristocratiques, ou de la bourgeoisie, on va parler comme ça, sont choisis dans certains milieux sociaux et pas dans d'autres. Donc ça va quand même être extrêmement frappant. Alors c'est et puis la stratégie d'innovation du prénom, on invente une orthographe complètement bizarre, personne d'autre ne connaît trace prénom, il est imprononçable. Cette stratégie-là, elle est réservée soit aux professions de la roue du spectacle ou alors à ceux qui appartenant à des milieux plus populaires ne se rendent pas compte des conséquences que ça pourra avoir sur la vie de l'enfant.
Donc c'est très déterminant socialement.
Oui, bien sûr, socialement c'est très clair.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71 et vous êtes déjà très nombreux au standard.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Et nous sommes en ligne avec une voisine, Saïmitara. J'espère que je prononce bien votre prénom, à Antananarivo, à Madagascar. Oui. Bonjour.
Bonjour, oui, vous avez très bien prononcé mon prénom, oui.
Tant mieux, alors on vous écoute.
Eh ben, moi, par exemple, mon prénom, il vient de ce que mes parents ont souhaité pour moi, même essence. Et donc, en malgache, si on traduit, ça signifierait « celle qui ose faire face ». Donc, c'est toute une phrase dans un seul prénom.
« Celle qui ose faire face ».
Oui.
C'est beaucoup vous demander.
Et c'est vraiment beaucoup vous demander. Et ce prénom m'a beaucoup influencé dans toute ma vie parce que ça me poursuit depuis que je suis consciente de moi-même. Et ben, je ne fais que essayer de faire comme ce prénom, quoi, de faire face à tout et surtout de rendre fiers mes parents parce que ça représente leur attente par rapport à moi. Donc, je suis tout le temps là à essayer de combler leur attente. Mmh. Même maintenant, et je crois que c'est pas prêt de s'arrêter encore.
Et vous êtes très consciente, en tout cas, du sens qu'a votre prénom.
Oui, parce qu'ils me l'ont très bien expliqué. Ils ont vraiment pris le temps d'expliquer mon prénom. Parce que avec mon nom, si on le met avec mon nom, c'est encore pire. Hein. Ça part toute une pression. Donc voilà, même jusqu'à maintenant, ce prénom, il me poursuit.
Non, si vous arrivez à gérer cette pression, c'est tant mieux.
Je suis très fière de ce prénom, parce que c'est très original aussi en même temps. Donc voilà, je suis à la fois fière et pressée par ce prénom.
Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Saïmitara. Est-ce que vous voulez réagir, Norcellier ?
Oui, alors là, on touche au juste désir parental qui dans le cas de cette personne, est communiqué de façon tout à fait explicite, ce qui n'est pas toujours le cas.
Oui, on ne sait pas forcément l'étymologie, le sens de son prénom.
Alors, on parle beaucoup d'étymologie. Je sais que quand on fait le tour des librairies, quand on est dans l'attente du futur enfant, on on est confronté à beaucoup de dictionnaires qui insistent beaucoup sur cette origine du prénom. Alors parfois, cette origine, elle est transparente, c'est-à-dire que le prénom est littéral, hein, une Constance, un Pierre, un Clément, voilà, on entend la signification du prénom. Mais la majorité des prénoms francophones ont une étymologie qui est obscure pour la plupart des gens, et même pour les porteurs. Hein. Il y a 3 ans, j'ai fait une étude en place de la Sorbonne, où on a demandé à plusieurs centaines de personnes s'ils connaissaient l'étymologie, l'origine de leur prénom. La plupart l'avaient su et l'avaient oublié. D'accord ? Donc effectivement, l'étymologie, ça peut être important, comme dans le cas de cette personne que nous venons d'entendre. Mais dans beaucoup de cas, le sens du prénom se perd. Et ce que j'évoque dans le livre, c'est qu'il est dommage qu'au moment où on considère le choix du prénom, on ne regarde pas ces autres dimensions, comme la dimension de la résonance sociale que le prénom va avoir, la façon dont la facilité avec laquelle les autres vont pouvoir appréhender ce prénom, vont pouvoir l'écrire. Et ça passe un petit peu à la trappe à ce moment critique où les parents font le choix.
Alors que ça compte. On va donner la parole à un autre voisin, Franck, à Abidjan. Bonjour Franck.
Bonjour.
On vous écoute Franck.
Bonjour, en fait, moi j'aimerais intervenir parce que de mon point de vue, je ne pense vraiment pas que les noms puissent avoir une influence quelconque sur notre vie. Et je vais prendre moi mon cas pour m'en expliquer parce que déjà nous, on a eu peut-être cette chance-là de naître et de grandir dans des petits villages de la Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, ils accordent tellement d'importance à cela et que moi, déjà, on m'avait donné un nom qui est Boamé qui signifie l'homme à la barbe, qui est un sous-entendu de quelqu'un de sage. Et donc, quand on te donne ce nom, par exemple, tu es condamné à travailler avec les notables, avec le chef. Donc, c'est en quelque sorte un frein ou alors une condamnation systématique. C'est-à-dire que si tu devais peut-être plus tard faire quelque chose, toi, tu es systématiquement obligé de faire ce métier. Mmh. Et pour moi, j'étais petit, moi, je n'avais aucune conscience de ça. Donc, en grandissant, on m'a dit que non, que toi, tu es le futur notable, tu dois travailler avec les sages. Moi, j'ai dit non, que vraiment, ça ne me convient pas. Et avec le temps, on s'est dit, c'est la coutume. Ceux qui ne le font pas sont exposés à telle chose, Déjà, par exemple, déjà la durée de vie, à 16, 17 ans, tu ne peux pas faire plus que ça. Donc, tu es en quelque sorte obligé pour toi-même ta suivi.
Et donc, vous êtes rebaptisé alors. Vous avez changé de prénom. Vous ne vous appelez plus Boamé. Aujourd'hui, vous dénommez Franck.
Oui, j'ai changé ce prénom. Parce qu'en fait, j'ai grandi avec ça en tête, cette psycho. J'avais peur, j'attendais avec peut-être impatience mes 16, 17 ans pour voir ce qui allait arriver, puisque j'avais décidé d'embrasser un autre chemin. Je n'étais pas devenu notable comme il l'avait souhaité. Et pour moi, j'avais un peu peur. Mais jusqu'à aujourd'hui, les 16, 17 ans, je les ai dépassés, ça fait une bonne dizaine d'années. Donc je ne pense pas que un nom puisse impacter notre vie. Il y a bien des Richards qui ne sont jamais devenus Richards.
Mais vous avez quand même échappé à votre prénom, ça c'est intéressant. Et aujourd'hui, vous travaillez dans une entreprise de broderie, donc rien à voir avec le chef du village. Merci beaucoup Franck pour ce témoignage, Anne-Laure Cellier.
Alors Franck ou Boamé, ce que je trouve formidable dans cette histoire, c'est que vous dites ne pas avoir été influencé par votre prénom, mais vous en avez changé. Je trouve que ça, c'est quand même particulier, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui en vous a été suffisamment fort pour que vous ayez le désir de vous en débarrasser de cette étiquette sociale. Donc je me demande dans quelle mesure elle n'a vraiment pas eu d'impact sur vous. En tout cas, vous n'étiez visiblement pas bien dans votre prénom, au point au moins d'en changer à un moment donné, ce que je trouve génial hein, de faire et prendre le taureau par les cornes quand on n'aime pas son prénom, c'est exactement ce que je pense qu'il faut faire.
Alors que ça peut être compliqué de changer de prénom, on verra.
Ça peut être compliqué, oui, mais c'est très bien, très sain que la personne ait ce geste quand elle sent que ça ne va pas. Par rapport à l'influence du prénom, justement, c'est ça qui est intéressant dans l'approche scientifique et dans la science du prénom, c'est qu'on va avoir une approche systématique, mesurée, où on va voir que le prénom, si ce n'est pas le cas, peut-être pour tous, pour la majorité des gens, a une influence.
Et on en reparlera de cette science du prénom à tout de suite dans 3 minutes sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Ouais, dans la vie, y a des prénoms prédestinés. C'est vrai qu'en certains cas, ton avenir est tout dessiné. T'as vu les Jackie, regarde comment on les taille. Banane, un jogging, plus besoin de détails. Les gars et les Kevin, c'est les kékés du fond de la classe. Ils aiment le tuning et font du winning sur la place. Jimmy, c'est un gitan, toujours accusé à tort. Hervé, un bon bricolo.
Et Gérard,
c'est un bon potage colo. Yeah, yo, tu connais forcément quelqu'un dans le tas.
C'est les prénoms.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez pour décortiquer ce que nous donnons de nous en premier, mais aussi ce qui reste très intime finalement. Nous parlons des prénoms aujourd'hui. Comment tu t'appelles? C'est la première question que l'on pose à un inconnu, même quand on ne parle pas la même langue. Surtout quand on ne parle pas la même langue, notre prénom devient notre visage aux yeux des autres, aussi important que notre look ou que notre apparence physique. Mais alors, comment apprivoiser ces quelques syllabes qui nous suivront toute notre vie? Et pourquoi un tel tabou d'ailleurs autour du changement de prénom, comme s'il s'agissait d'une norme sacrée inébranlable? Avec nous pour en parler, Anne-Laure Cellier, professeure à l'école de commerce HEC à Paris, spécialisée en psychologie sociale et auteure du Pouvoir des prénoms, publié aux éditions Larousse. Également sur ce plateau, Jean-François Amadieu, sociologue, spécialiste des relations sociales au travail. Alors les prénoms inspirent notamment ce duo d'humoristes français du Palmachot. Écoutez.
Bon ben, santé hein.
Ouais. Bravo. Santé les mecs.
Bravo.
Merci.
Ouais. Mais tu es papa, j'hallucine. Comment tu vas l'appeler?
J'aime bien Serge.
Tu veux qu'il ait pas de pote ton fils plus tard?
Mais Serge, c'est très bien.
Non, on dirait que ton projet c'est lui niquer sa vie.
Ouais. Ah bah c'est bon, ça va, j'ai compris. Et puis ça se trouve, ça sera peut-être pas un garçon, ça sera peut-être une fille. Hein. Ouais. Toi, si c'est une fille, je l'appellerai bien Agnès.
Bah non.
Pas Agnès. Quoi encore?
Et, ou sinon, ta fille, si tu sais pas comment l'appeler, t'embêtes pas, tu l'appelles Sarah. Hein.
Tu vois, j'ai pas envie de lui donner un prénom comme tout le monde, là. En ce moment, il y a putain de mode des prénoms en haut, là. Attends, Enzo, Timéo, machin, ouais. Alpha Romeo. Mmh. Attends, je vais pas lui donner un nom de bagnole. Ta fille s'appelle Mégane.
Enfin voilà, tu vois, je pense que c'est pas compliqué. Ton gamin, tu vas l'appeler par le même nom toute sa vie, donc il faut tout simplement que tu trouves le nom de quelque chose que t'aimes, et puis voilà, roule quoi, tu vois.
C'est pour ça que je m'appelle comme ça?
Ah oui? Ah, t'as d'autres copains qui ont le même prénom?
Bah non.
Bah voilà.
Ouais, bah c'est un prénom de merde.
Hé hey, Bigorneau! Tu parles pas comme ça, hein?
On en rit, on en sourit, et pourtant les prénoms c'est du sérieux. Et oui, il existe une vraie science des prénoms à qui on associe des traits de caractère. Anne-Laure Cellier, que nous dit, que nous raconte cette science des prénoms?
Alors cette science, elle est extrêmement récente. Hein, tout d'abord, donc on fait très attention à ne pas faire de psychologie de comptoir où on ferait des recommandations trop radicales. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où le prénom nous a accompagnés depuis les premiers écrits hein, que l'on est de notre espèce, il y a peut-être une cinquantaine d'années que, en sciences cognitives, hein, en psychologie sociale et cognitive, on s'intéresse effectivement à la façon dont la pensée du prénom peut sculpter la personne et peut sculpter la pensée des autres hein, qui reçoivent le prénom de cette personne. Cette science, elle a été faite de très très peu d'articles jusqu'à extrêmement récemment. Et effectivement, depuis 15 ans et même depuis 5 ans, il y a une espèce d'explosion d'articles sur le sujet. Donc des scientifiques, des neuroscientifiques, des psychologues sociaux, des psychologues cognitifs, des économistes. On est tous en train de converger sur ce sujet extrêmement sensible qu'est le prénom.
Et l'idée, c'est qu'on associe en fait des traits de caractère à des prénoms, parfois même des stéréotypes, vous les évoquez dans le livre.
Ah, c'est inévitable, hein, en fait. C'est ça que j'évoque effectivement dans le livre, c'est-à-dire que pour penser un prénom, je constitue un stéréotype. Je rencontre une Charlie, puis deux, puis trois, et je ne contrôle absolument pas le fait que, malgré moi, je forme un prototype de la Charlie moyenne dans ma tête, de telle sorte que lorsque je rencontre une quatrième Charlie, j'ai déjà un certain nombre d'attentes sur la façon dont elle va apparaître et la façon dont elle va pouvoir interagir avec moi.
Donc ces stéréotypes sont construits individuellement, en fait. Vous allez vous imaginer une Charlie ou une Caroline dans votre tête et puis voilà, vous attendre à ce qu'elle ressemble à ça.
En fait, je vais recevoir des Charlies de par mes contacts sociaux et par conditionnement pavlovien de base, je vais former un stéréotype de Charlie de telle sorte qu'effectivement, la Charlie suivante, je vais avoir un certain nombre d'attentes par rapport à la façon dont elle va se comporter.
Et puis par exemple, si on s'attend, si on imagine qu'une Julie est souriante, par exemple, on va lui sourire spontanément, elle-même va donc sourire et elle va rentrer dans ce stéréotype.
Complètement, c'est-à-dire qu'en fait, on va jouer le rôle, hein, on joue le rôle du prénom que l'on a, parce que ça nous simplifie la vie, hein, ce n'est rien de grave, hein, au contraire, c'est plutôt adapté, approprié comme réaction. C'est-à-dire si je m'appelle Anne-Laure et que vous imaginez qu'Anne-Laure est une fille sage, je ne vais pas arriver avec un rire gras et exploser en début de conversation, je vais me comporter de façon sage parce que je sais que vous, ça ne va pas vous surprendre et donc notre relation va être plus lisse et plus facile et on va pouvoir aller plus loin dans le contact.
Et il y a des études très intéressantes, hein, qui montrent qu'on arrive à reconnaître les prénoms des gens à partir de leur visage.
Alors je suis d'accord avec vous qu'elles sont très intéressantes parce qu'il s'agit de mes études, hein, donc forcément je les aime beaucoup. On a trouvé qu'on ressemble littéralement physiquement à notre prénom, c'est-à-dire que si je prends votre photo d'identité, c'est-à-dire littéralement votre visage, et que je sors faire un micro-trottoir, je prends 100 personnes et je leur demande si vous appelez Charlie ou je donne par exemple 3 autres options de prénoms qui ont la même probabilité, hein, de vous avoir été donné l'année de votre naissance. Ce qu'on trouve, c'est que les gens devinent correctement votre prénom, largement au-delà du facteur chance.
Et comment ça s'explique, ça ?
Alors, ça s'explique par deux choses. D'abord, une Charlie, nous partageons, vous et moi, et votre entourage à Paris aujourd'hui, ce que c'est qu'une Charlie. Hein, on a du mal à la dessiner, je ne vais pas vous faire dessiner une Charlie, tout comme vous avez un stéréotype du comptable. Vous pouvez vous imaginer une tête de comptable, mais vous avez du mal à la dessiner, ben, c'est pareil pour les Charlie. On a toutes les deux ce stéréotype, et ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est que Charlie tend vers ce stéréotype. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous préparez, eh bien, vous préparez votre visage pour être celui d'une Charlie. C'est-à-dire que vous vous mettez à ressembler au stéréotype de votre prénom. Et donc ça finit par marquer votre visage, littéralement vous êtes tatoué sur le visage. Au bout de 25 ans d'avoir tout fait pour ressembler à une Charlie, vous avez une tête de Charlie.
Jean-François Amadieu, quel impact peuvent avoir les prénoms dans le domaine de l'emploi, dans le monde du travail ?
Oui, alors peut-être juste avant de vous répondre sur ce qui vient d'être dit. En fait, c'est vrai que les expressions d'un visage, le fait qu'on sourit ou pas, etc., peuvent compter. Mais je remarque que apparemment dans les études, si j'en crois ce que j'ai vu, on s'aperçoit aussi d'un autre élément, c'est que la personne va aussi dans son maquillage, dans sa coupe de cheveux, dans ses vêtements, donc dans le reste de son apparence, en effet, certainement est influencée par la façon dont les autres le voient, etc. Mais donc c'est pas simplement les traits du visage, parce que sur la forme du visage, il n'y a pas de base scientifique pour la morphopsychologie, de telle sorte que cette forme, si on enlève tout ce qui est coupe de cheveux, tout ce qui pourrait ressembler à la personne du point de vue social, le reste au fond ne permet pas de déterminer directement une personnalité. Enfin bon, c'est voilà. Alors sur les...
Alors en fait, si. On a justement, bien sûr, hein, le but des études était de bien montrer que c'était le visage et les traits faciaux, hein, qui sont façonnés. Et précisément, on a une étude où on ne regarde que l'ovale du visage, voilà, et où on voit le prénom transpirer c'est dans ça. Cet ovale-là, donc, indépendamment des ça. Vêtements, indépendamment de la coupe de
tout
cheveux.
Tout à fait. Mais dans ce cas, c'est, ça ne peut être... Parce que vos rides d'expression, vous avez, vous grimacez, vous souriez.
L'expression,
vous
avez, expressions qu'on a sur
voilà,
le visage.
Les expressions, ce sont ces expressions qui peuvent en effet marquer.
Et c'est ça qui est intéressant,
visage.
Parce que c'est
mais
ça
c'est
qu'on
pas
va
la
développer
forme
aussi.
La forme elle-même
ce
est un invariant.
Ah oui, fait,
et en fait, ce sont les expressions. Voilà, c'est comme la gestuelle. Alors sur les impacts. Oui, ils sont connus effectivement depuis l'impact du prénom est connu depuis assez longtemps. Alors il est sous-estimé. Par exemple, dans le domaine du travail, vous savez que c'est la discrimination principale, hein, bien sûr en France, dans la vie des individus. Donc l'accès à l'emploi en particulier et les évolutions professionnelles. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que tout le monde connaît. Parce que c'est le plus classique, l'effet, si vous voulez, du prénom porté comme un signal d'appartenance religieuse supposée ou un marqueur social, ça on le sait déjà un peu moins. Vous êtes enfant d'ouvrier ou enfant de cadre, mais ce que les gens ignorent le plus, ce qui est très peu connu, c'est le fait qu'un recruteur qui voit un CV ou n'importe quel individu va être influencé sans s'en rendre compte par un prénom, parce que son histoire personnelle fait que bah, il aime bien ou pas, il a un bon ou un mauvais souvenir. Donc en fait, le prénom, par ses sonorités, par ce qui signifie, même pour le recruteur, ça va l'influencer. Ou alors, un phénomène qui est très connu de, scientifiquement, c'est aussi qui se ressemble, s'assemble, c'est-à-dire la similarité, le fait que vous voyez un prénom, c'est le même que le vôtre ou celui de vos enfants, où il y a les mêmes syllabes, donc ça vous ressemble. Et les gens aiment bien ce qui vous ressemble, c'est l'égotisme. En fait, les gens aiment bien, finalement, ils s'aiment bien eux-mêmes, et donc dès que le prénom va résonner un petit peu, vous ressemblez, c'est mieux. Raison pour laquelle il vaut toujours mieux un prénom très classique. Car finalement, quand vous vous appelez Julie ou Nicolas, c'est plus facile que si vous avez un prénom unique. Vous avez plus de chances que les gens, bah, y a quelque chose de commun et ça leur
plaît. Et puis le prénom est peut-être plus facile à prononcer.
Alors je voulais quand même juste te dire sur les personnalités, parce que c'est un point important. C'est vrai que les prénoms sont souvent marquants, mais une des erreurs, et je crois qu'Anne-Laure Sellier le sait bien, une des erreurs de tous ces bouquins où on vous présente des tas de prénoms, puis on vous dit les Nicolas n'ont pas la même personnalité que les Jacques ou les Kevin, ça c'est évidemment à la naissance, et c'est absurde. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de Nicolas et beaucoup de François, et tous les Nicolas et tous les François ou tous les Emmanuel n'ont pas la même personnalité. Donc il y a quelque chose d'évidemment faux. C'est pour ça que autant il est vrai que les prénoms peuvent être marquants, autant les prénoms très populaires, d'une certaine manière, ça neutralise le phénomène, et après chacun se construit, je dirais, la plus indébantamment du prénom finalement. Vous êtes Nicolas, et des Nicolas, il y en a 50.
Absolument. Et c'est intéressant parce que donc, c'est là que toutes ces sciences convergent largement là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de paranoïa qu'un prénom classique, effectivement, compromet l'individualité de tout un chacun. Alors qu'au contraire, en fait, elle permet à l'individu de s'exprimer pleinement. Parce que l'individu n'a pas à se battre avec un prénom. Il n'a pas besoin d'être à la hauteur de son prénom. Ça lui fait ça de travail en moins à faire. C'est un Nicolas, très bien. Et après, quel type de Nicolas vais-je être ? Et donc là, il y a un terrain de jeu fabuleux.
Une vraie individualité. Quand même.
D'ailleurs, il y a une préconisation, et je pense qu'on sera tous d'accord ici, scientifiquement, il y a quelque chose d'absolument certain, il faudrait vraiment dire à tous les parents, ne choisissez jamais un prénom rare, original, à l'orthographe bizarre, parce que je pense que vous serez d'accord avec moi, scientifiquement parlant, à tous les stades de la vie de l'enfant, dans sa vie professionnelle et par la suite scolaire, etc., ce sera une catastrophe. Sauf vraiment à être enfant de la balle ou des professions de la route du spectacle. Mais le reste du temps, si vous n'êtes pas fils d'une people américaine, d'une star du cinéma ou d'une chanteuse, le reste du temps, il vaut mieux un prénom que tout le monde connaît, plutôt populaire, c'est peut-être moins sympa, moins original, les parents se disent on va moins se distinguer, mais c'est quand même beaucoup plus sûr.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71. 71, on se retrouve dans un instant après Camille, on n'a pas encore parlé de ce prénom, et tout de suite c'est la chanson L'Assaut sur RFI.
S-I-C-O, si elle a I se lance, l'asso, si elle l'o, l'asso, le sol, I laisse, lance, le haut, si elle l'asso, si l'asso, si elle s'asso, lance, l'asso, se l'asso, se le haut, si elle l'asso, et le sol, I laisse, si elle s'asso, si le sol, I laisse, lance, le haut, si elle laisse, do, laisse, I, si la, si elle laisse, do, I, se, si la, so, la, so, la, so, si la, so, si la, so, lance, la, so, so, la, so, I, se, le haut, si elle laisse, so, et le sol, I, la, so.
Cela a-t-il du sens de dire que les Charlotte ont bon caractère, que les Julie sont souriantes, que ce Christophe ressemble bien à un Christophe ? On parle des prénoms aujourd'hui dans 7 milliards de voisins et nous sommes en ligne avec une voisine à Paris, Parfaite. Bonjour Parfaite.
Bonjour.
Alors c'est votre vrai prénom, Parfaite ?
Voilà.
Alors on vous écoute.
Moi, depuis l'école primaire, je suis d'origine béninoise. C'est un prénom que j'aimais pas du tout, parce que je vois déjà dans les conjugaisons l'imparfait, tout ça, j'ai eu des petites piques à l'école. Je me dis, c'est un adjectif qualificatif, c'est pas un prénom. Au fait, je vois qu'en Afrique, les gens, ils réfléchissent pas très longtemps. Hein. Quand les enfants naissent, on ne regarde pas, voilà, c'est le calendrier, je suis née un 18 avril, c'est parfait, du coup, voilà, on me donne parfaite. J'aime pas du tout. Et aujourd'hui, ce qui se passe encore sur le continent, c'est que les gens, ils cherchent l'originalité et ils tombent, excusez-moi, dans le ridicule. J'ai vu un reportage au Congo où on appelait un enfant Sarkozy. Vous imaginez, voilà, on tombe dans un truc qui n'a plus de sens, quoi. J'aurais vraiment aimé qu'on me donne un nom, un prénom traditionnel. Du jour de ma naissance, ça m'aurait vraiment fait plaisir, voilà. Donc aujourd'hui, je fais les démarches pour changer de prénom, parce que j'aime pas, quand je vais quelque part, je vois, les gens, ils sont étonnés, ils me regardent, des fois, on me dit, vous êtes parfaite. Voilà, il n'y a personne n'est parfait, voilà.
Et donc, ouais. Comment vous voudriez vous appeler parfaite?
Ben, actuellement, partout où je passe, sans ma pièce d'identité ou quoi que ce soit, je me fais appeler Florence.
Florence? Voilà. Pourquoi Florence?
Je veux juste ne pas me faire voir, c'est discret. Je vois que c'est au moins c'est discret. Ça fait pas original, c'est tout simple, voilà.
Vous voulez passer inaperçu avec votre nouveau prénom.
Exactement.
Merci beaucoup pour votre témoignage parfaite, Anne-Laure Cellier. Alors, chaque année en France, 3000 personnes s'engagent dans une démarche de changement de prénom, autant d'hommes que de femmes. Et ce n'est pas toujours facile, cette démarche-là.
En fait, c'est étonnant que ce ne soit que près de 3000, c'est un petit peu en dessous de 3000. Il y a un ouvrage remarquable qui s'appelle « Changer de prénom » de Baptiste Coulmont qui explique les raisons de toutes ces personnes. Et ce qu'on voit, c'est que les gens changent de prénom vraiment quand la souffrance est intolérable. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de facilité à le faire, à la fois juridiquement parlant, c'est-à-dire qu'on passe devant un juge concrètement et le juge doit être d'accord avec nous. Donc il faut constituer un dossier, expliquer pourquoi, prouver que la souffrance est là depuis longtemps, qu'elle est justifiée, enfin il faut vraiment convaincre. Et notamment, ce qui m'a beaucoup touchée évidemment à cause de notre recherche, il y a eu le cas d'une personne qui a demandé à changer de prénom parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas la tête de son prénom. Alors évidemment, vous pensez bien que je suis convaincue qu'il devrait pouvoir le faire. Et ça c'est un
argument... Sans qu'il y ait forcément de souffrance en fait.
Y a une souffrance dans le sens où, justement, je n'ai pas la tête du stéréotype de mon prénom. Je n'arrive pas à tendre vers mon prénom, je n'arrive pas à m'en accommoder. À chaque fois qu'on m'appelle, et ça, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça depuis un an, depuis la sortie de notre recherche, on m'appelle et c'est comme si on appelait quelqu'un d'autre. Voilà. C'est une souffrance psychologique assez lourde à porter, quand votre prénom résonne plusieurs fois par jour et que vous sentez qu'on parle à quelqu'un d'autre. Et donc, je pose cette question dans le livre, de dire, mais pourquoi avons-nous ce rapport aussi fixé définitif au prénom. Alors il y a une raison historique qui est qu'il a été à un moment donné très récent de notre histoire impossible de changer de prénom. Mais si on revient tout petit peu en arrière, on se rend compte sociologiquement, anthropologiquement parlant, que les gens changeaient de prénom à longueur d'existence. Enfin, un prénom, c'était vraiment pas quelque chose
Le prénom pouvait changer au fil des événements de notre vie.
Oui, puis alors il y a même le cas Françoise Zonabend qui est une anthropologue formidable qui a fait des enquêtes comme ça dans des villages. Vous aviez une seule et même personne qui avait trois prénoms différents selon l'heure de la journée et l'endroit où elle se trouvait dans le village. Enfin, et tout le monde était très clair sur qui était cette personne.
Et alors certains qui n'aiment pas leur prénom peuvent aussi se faire appeler par un autre prénom sans forcément changer d'état civil.
Alors tout à fait. Alors la souffrance, elle est différente. Il y en a qui ont besoin vraiment d'effacer le prénom. Donc dans l'ouvrage Changer de prénom, on voit que les gens qui aujourd'hui passent devant le juge, ils ont vraiment besoin qu'il n'y ait plus une seule trace. Aussi parce que c'est un tel tabou social que si on change de prénom, il ne faut pas qu'on en ait à en justifier. Donc vaut mieux que c'est le crime doit être parfait, on doit tout effacer. Parce que si vous parlez aux gens qui en ont changé, souvent la réaction d'autrui, c'est de dire mais pourquoi renier tes origines, pourquoi aller contre la volonté de tes parents. Enfin, il y a cette espèce de convention lourde, oui, alors que ce n'est absolument pas nécessaire.
Alors justement, à mon sens, on a une voisine qui a changé de prénom de manière officieuse, Julie, qui est à Pretoria. Bonjour Julie.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, je n'ai pas changé de prénom officiellement. Je fais partie des gens qui ont décidé que je n'ai pas mon prénom, le prénom que mes parents m'avaient donné. Et je ne me reconnaissais pas dans ce prénom, je ne l'habitais pas.
Qui est Catherine, c'est ça, votre prénom officiel.
C'est ça, le prénom que mes parents m'ont donné, c'est Catherine. Et donc, oui, j'étais pas à l'aise avec ce prénom. Je ne l'aimais pas d'abord parce que je le trouvais guttural et puis parce qu'il était très commun dans ma génération. Et puis aussi parce que je ne me reconnaissais pas. Et j'ai entendu tout à l'heure que vous disiez qu'on finissait par s'adapter à son prénom. Et je crois que je ne me suis jamais adaptée.
Et est-ce que vous avez essayé de changer de prénom de manière officielle, justement ? Est-ce que vous y avez pensé ?
Non, en fait, je n'avais pas besoin d'effacer mon prénom parce que ma famille a continué à l'utiliser. Et moi, à partir du moment où j'ai rencontré le garçon avec qui je me suis mariée après et qui partageait cette même idée que le prénom ne m'allait pas particulièrement bien, et c'est lui et moi qui avons trouvé celui-ci. Et à l'époque, il n'était pas à la mode. Et il n'était pas tellement donné, et c'était une sorte de d'envie, voilà, de changer quelque chose qui n'allait pas du tout dans ma vie.
Et pourquoi Julie alors ? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce prénom-là ?
Je pense que moi j'ai 60 ans, il y a 40 ans c'était un prénom qui ne se donnait pas. C'était un prénom qui était un peu moderne, rebelle, qui était à l'inverse de ce prénom de Catherine très classique. Et qui me semblait plus léger, plus gai, plus amusant et plus correspondant en fait à ce que j'avais envie d'être.
Et est-ce que certains dans votre famille vous appellent toujours Catherine de votre prénom officiel ?
Dans ma famille d'origine, oui, toujours, tout le monde m'appelle Catherine et je vis avec cette dichotomie parfaitement.
Ça vous va bien, ça ne vous dérange pas ?
Non, ça ne me dérange pas, puisque je respecte le choix de mes parents qui ont trouvé que ce prénom de Catherine, c'était celui qu'ils aimaient. Mes frères et sœurs, j'ai grandi avec eux, donc je ne vais pas leur imposer un changement. Mais en revanche, à l'extérieur de la famille, je suis Julie.
Merci beaucoup Julie pour ce témoignage, Jean-François Amadieu.
Oui, c'est caractéristique de ce qu'on voit dans les statistiques de changement de prénom que Coulmont a étudié, c'est-à-dire que quand les gens choisissent un nouveau prénom, ils s'arrangent pour prendre un prénom plus jeune, c'est-à-dire qui est à la mode maintenant, donc ils se rajeunissent par le prénom. Et là c'est ce qu'on vient d'entendre finalement. Julie, bah oui, c'est un prénom plus qu'on donne plus aux jeunes, et Catherine beaucoup moins, et Catherine ou Julie souffrait justement du fait que son prénom faisait un peu vieux, et c'est ce qu'elle lui reprochait finalement.
Alors, oui, c'est mieux que la chirurgie esthétique. Hein.
Ça coûte moins cher, facile, c'est plus facile. Formidable. Alors, évidemment, la limite quand même du changement de prénom en permanence, c'est que c'est vrai que si le droit en était ouvert plus largement, c'est vrai qu'on se retrouverait dans une situation où, sans cesse, les gens chercheraient tous les 10 ans à changer de prénom, comme on fait évoluer une marque, comme on l'a avec peut-être des consultants pour les aider, et ils changeraient sans arrêt pour rester éternellement jeunes, comme au fond, ils vont où ils iront chez le chirurgien esthétique. Donc, c'est vrai que là, est-ce que c'est un phénomène qu'il faut encourager ? Je ne sais pas.
Alors, dans mes délires du monde idéal par rapport à la question du prénom, je m'étais dit, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de domaines. En fait, bon, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on donne un prénom à la naissance, l'enfant ne ressemble à rien. Désolée de le dire, un enfant, un nouveau-né ne ressemble pas à grand-chose.
Il n'a pas la tête de son prénom.
Et
pour
à
le
l'âge
coup.
Adulte, on voit que le prénom transpire dans le visage. Et justement, je me suis dit, une des raisons pour lesquelles ça pu heurter ou déranger beaucoup de gens, c'est cette notion que voilà, il y a quelqu'un d'autre que moi qui choisit quelque chose qui va me façonner, qui va quand même me tatouer. Et donc, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit à la parole sur ce
de choisir
sur cet aspect,
en fait, mon propre tatouage.
Sur cet aspect important. Chose que, par exemple, les Tucanos d'Amérique, ils laissent le choix aux enfants. Enfin, ils ne prénomment pas les enfants jusqu'à 3 ans parce qu'ils considèrent qu'il est absolument fondamental de d'abord voir la personnalité de l'enfant et de voir si l'enfant est d'accord. Et en France, il y a tout un tas de domaines, par exemple, les enfants qui ont plusieurs nationalités, selon la configuration des nationalités, à 18 ans, ont le droit de dire quelle nationalité ils veulent, entre guillemets, épouser. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce droit-là pour le prénom ? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un système où, jusqu'à 18 ans, on porte le prénom des parents, et à 18 ans, une fois de façon fixe et définitive,
on choisit définitivement
si souffrance
prénom.
Il y a, Parfaite peut devenir Florence, et Catherine peut devenir Julie.
On va donner la parole à un dernier voisin, Prince, qui est à Pointe-Noire. Bonjour, Prince.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, je dirais, par rapport à ce que je dirais, oui, qu'il y a quand même un impact, qu'on soit de mon côté, s'il est positif. Parce que moi, j'ai porté deux prénoms, j'ai Prince et Alpha. Quand je vois les significations de ces prénoms, qui signifient premier quelque part. Et dans ma vie sociale, je crois que j'ai cette chance-là qu'on est donc toujours les chercheurs. Je suis passé toujours en premier rang. Je suis aussi né le 1er janvier, à la première heure, comme j'ai dit sur Facebook, 0h44.
C'est
et
précis.
Dans ma vie professionnelle aussi, j'ai cette chance-là d'être placé toujours au premier rang, comme étant des responsabilités, pour que je sois comme à la tête d'un groupe, à la tête des personnes pour les gérer, les diriger.
En tout cas, vous aimez vos deux prénoms, donc Prince et Alpha. Merci beaucoup pour ce témoignage. On arrive à la fin de cette émission. J'aimerais vous demander quels conseils donner aux futurs parents qui nous écoutent pour le choix du prénom de leur enfant, puisque on l'a bien compris, donner un prénom, c'est une grande responsabilité, même si l'enfant pourra en changer. Anne-Laure Cellier.
Je ne ferai que citer la recommandation d'un de mes amis lorsque j'étais enceinte. Il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très beau. Il a dit les enfants voient le monde comme une chose magnifique, hein, parce qu'elle est simple. Alors donnez un prénom qui soit simple pour votre enfant et pour son entourage. Simple à penser. Facile.
Jean-François Amadieu.
Oui, je suis d'accord avec cette préconisation. Et il y en a une deuxième, c'est qu'il faut y passer du temps. On ne doit pas choisir un prénom vu les conséquences pour la suite pour un enfant à toute vitesse.
Voilà. Il faut y réfléchir.
Bien sûr. Et il faut vraiment lire beaucoup, aller se renseigner, bien regarder en effet le maximum d'informations parce que c'est pas à prendre à la légère. C'est plus important que de choisir son prochain véhicule.
Profiter des 9 mois de la grossesse pour choisir ce prénom qui est donc un vrai tatouage pour la vie. Merci beaucoup Jean-François Amadieu. Je rappelle que vous publiez DRH, le livre noir aux éditions Point. Merci à vous Anne-Laure Cellier. Vous publiez quant à vous le pouvoir des prénoms aux éditions Héliopole. Je me suis trompée tout à l'heure, ce n'était pas les éditions Larousse. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Alors je ne vous ai pas demandé si vous aimiez vos prénoms, j'espère que oui, et puis si vos prénoms vous ressemblaient. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Romain Dubrac à la réalisation, Cécile Lavolo en coulisses, Sophia Bédard pour vous répondre les voisins, et puis merci également à Alexandra Sirgan et Raphaël Lazizi. Merci à vous bien sûr les voisins, les voisines, et demain 7 milliards de voisins, ils sont migrants, parfois mineurs, isolés en France, et si nous les écoutions, à quelles difficultés font-ils face à leur arrivée? On en parle demain les voisins, les voisines, restez à l'écoute, et tout de suite un nouveau journal sur la radio du Monde.